matin, un cas d'une fausse identité. Que Dieu vous bénisse et bienvenue en 2011. Prenez vos Bibles et allons à Éphésiens chapitre 4. Beaucoup de gens aiment commencer l'année avec des résolutions et il y a coup sûr un sens à faire des choses annuellement. Et certaines gens veulent faire des résolutions pour se concentrer à des petites choses physiques de la vie, pour améliorer notre apparence et notre vitalité. Peut-être voudrions-nous perdre du poids, abandonner la cigarette, être en forme. Et souvent, ces vœux arrivent au point de crise d'identité. Ils ne sont pas satisfaits de ce que les gens pensent qu'ils sont et incertains de ce qu'ils devraient être. Souvent, quand vous assistez à des réceptions, les gens vous demandent qui vous êtes, ce que vous faites. Moi, j'aime parler aux gens à propos d'être plus que vainqueur par Christ. Souvent, les gens semblent excités car ils perçoivent les possibilités. Après, ils disent, Larry, vous ne me connaissez pas. J'ai tenté, échoué à maintes reprises. J'ai essayé, échoué auparavant. J'ai tenté, échoué dans mon mariage. J'ai tenté, échoué dans les affaires. J'ai tenté, échoué dans le domaine de santé. J'ai tenté, échoué d'être un chrétien. Le problème n'est pas que je ne vous connais pas. Le problème est que vous ignorez qui vous êtes. Il s'agit là d'un autre cas d'une fausse identité. Nous devons ôter le vieil homme. Regardons au chapitre 4 d'Éphésiens et voir ce que c'est notre identité selon Dieu. Et à l'Éphésiens 4, au verset 21, il est dit « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité en Jésus, c'est ici qu'il y a la vérité, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous depuis eu égard à votre vie passée du vieil homme, jusqu'au par les convoitises trompeuses. Nous devons donc nous dépouiller du vieil homme. Vous savez, nous passons beaucoup de temps à réentraîner le vieil homme, à ressembler au nouvel homme. Mais les Écritures ne disent pas de nous revêtir du vieil homme. Elles nous disent au contraire de nous en dépouiller. Car il est mort en Christ. Et vous devez vous revêtir du nouvel homme. Nous ne devons pas faire revivre le vieil homme et lui donner l'apparence de quelqu'un de bien. Et au verset 23, il est dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En d'autres termes, mettez dans votre intelligence ce que vous avez déjà reçu spirituellement, n'essayez pas de vous identifier au monde et à ses problèmes, car votre identité est en Christ et il a effectué un travail fini. Allons à Éphésiens 2. Éphésiens 2, au verset 1, où il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà pourquoi vous ne devez pas réentraîner le vieil homme. Il est mort. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire, il a reçu l'autorité d'exercer cette puissance. De l'esprit qui agit maintenant dans le fil de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Je comprends que vous ayez été ratés dans le passé, que vous ayez échoué dans votre mariage, dans vos relations, dans les affaires, et dans d'autres choses. Mais ne laissez pas le passé déterminer votre avenir. Laissez ce que le Christ a fait dans le passé changer votre avenir. Mais ne laissez jamais votre passé déterminer votre avenir. Regardez au verset 4. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, C'est du grand amour qui nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Vous n'êtes plus en bas dans la catégorie d'échec. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, voyez-vous. C'est là que se trouve notre identité, pas dans le monde, pas dans les choses du monde. Le monde peut vous dire que vous êtes un flopé. Mais le monde a échoué, il n'y a rien qui les fait avec succès. Ils font toutes ces choses pour avoir la paix. Avez-vous jamais eu la paix? Non. Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Ne vous inquiétez pas. Et que votre cœur ne se trouble point. Alors, qu'est-ce que le monde a fait pour vous, hein? Sinon, vous pompez la peur. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. C'est un nouvel an. C'est un nouveau jour que le Seigneur a fait. Regardez la Lamentation. Lamentation 3. Lamentation. Jérémie, il dit au verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, voyez-vous. Chaque jour est un nouveau jour pour vous. Décidez donc que vous allez vous revêtir de votre identité aujourd'hui. Ensuite, les gens me disent, Larry, je ne sais pas si je peux croire d'être plus que vainqueur. Là, je sais que je suis supposé être plus que vainqueur, mais je ne sais pas si je peux croire. Pour l'être, vous savez, la loi de la croyance est une loi très importante. Mais la capacité de Dieu à réaliser les choses surpasse notre capacité à croire. Ce n'est pas une raison de minimiser votre capacité à croire. Non, mais vous avez cru que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Pensez un peu à ceci. Vous n'avez jamais rencontré Jésus-Christ ressuscité. Quelqu'un vous a dit que Jésus-Christ était mort et que Dieu l'a ressuscité des morts et vous l'avez cru. Il y a beaucoup de choses que notre voisin, ou si vous voulez, votre voisin vous dit que vous ne croyez pas. Mais ici, Jésus a été ressuscité des morts et vous l'avez cru. Ne me dites pas donc ceci. La preuve est que vous parlez en langue. S'il y a parmi vous ceux qui ont cru que Jésus a été ressuscité des morts et qui n'ont pas parlé en langue, nous pouvons vous aider. Envoyez-moi seulement un mail à ministère@bgm-usa.org et faites-moi savoir. Et je m'en serai que vous obtenez de l'aide. Vous avez reçu en manifestation cet esprit. Et vous l'avez manifesté dans le monde des sens en parlant en langue. Alors, nous aimerions que tout le monde soit en mesure de le faire. Quand vous avez cru que Dieu a ressuscité Jésus des morts, vous avez reçu le don de la vie éternelle. Vous vous êtes rendu compte que ceci faisait partie du paquet que vous avez reçu quand vous avez cru que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Vous êtes-vous rendu compte que dans le même paquet, vous avez reçu une puissance d'en haut? Acte 1, oui, nous le dit. Avez-vous su que quand vous avez reçu la foi de Jésus, ça faisait partie de ce paquet? Vous avez là tout ce qui peut vous aider à croire. Et Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez croire. En d'autres termes, nous devons placer notre confiance dans la capacité de Dieu à réaliser des choses que dans notre capacité à croire, ou bien notre manque de confiance à croire. Savez-vous que l'intégralité physique faisait partie de ce paquet, hein, selon Romains 10, vous serez sauvés, veut dire sozo, en grec, rendre entier. Savez-vous que quand vous avez cru que Dieu a ressuscité Jésus des morts, vous avez reçu le salut, sozo, qui contient la vie éternelle, comme documenté en Romains 6, 23. Savez-vous que parce que vous avez cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, vous avez reçu la nature divine dans le même paquet? Cette nature qui est amour, vie et lumière. Comme le dit 1 Pierre 1, 4. Savez-vous que vous avez reçu la rémission des péchés quand vous avez cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts? Selon Romains, vous avez reçu la puissance et l'amour. Et parce que vous avez cru, vous avez reçu une intelligence saine dans le même paquet. Tout simplement parce que vous avez cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, vous avez tout ceci. Alors, Dieu est capable de faire plus que ce que nous croyons. Sans savoir, vous êtes de grands croyants. Ne laissez pas le monde vous en dissuader. Et ne laissez pas le monde déterminer votre avenir. Nous avons cru une promesse de Dieu et Dieu nous a donné tout ce paquet. Alors, s'il est capable de mettre tout ceci ensemble, de par notre petite croyance imaginée, c'est qu'il fait pour nous au quotidien. Là où nous n'avons pas de croyance, Dieu nous conduira au lieu où nous devons être pour croire. Ne souffre pas du cas d'une fausse identité. Notre identité est en Christ. Peut-être que vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes celui, est-ce que Dieu dit que vous êtes. Même si vous n'avez jamais utilisé vos ressources illimitées, vous les avez toujours. Dieu vous voit de cette façon. Et c'est ce que vous êtes. Beaucoup ont vécu le cas de fausse identité. Allons en Exode 4. Je voudrais vous lire ici un récit de Moïse. Cet homme merveilleux de Dieu, car il avait aussi connu un cas de fausse identité. Commençons à partir d'Exode 3. Genèse, Exode 3, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse était entraîné dans toute la sagesse des Égyptiens. Vous savez que tous les enfants des Hébreux allaient être tués, mais sa mère le mit dans un panier qu'elle enduisait de bitume et de poids. Et elle le déposa parmi les réseaux sur le bord du fleuve. Alors la fille de Pharaon, qui descendit au fleuve pour se baigner, aperçut la caisse au milieu des réseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Alors les écrits disent qu'elle éleva Moïse comme son propre fils. Il avait donc accès au Pharaon. Quelque part, il est dit que Moïse fut entraîné dans toute la sagesse des Égyptiens. Et si vous continuez l'histoire, vous apprendrez que Moïse tua un Égyptien et l'enterra dans le sable. Et il s'enfuit au pays de Médian. Alors ici, dans ce pays de Médian, en Exode 3, il travaille, n'est-ce pas, pour son beau-père Jéthro. Exode 3. Et au verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, Dieu n'a pas dit à Moïse, vous savez, on va continuer à lire, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Vous savez, Dieu ici, si vous continuez à lire jusqu'au verset 7, Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Vous voyez, je connais ses douleurs. Si Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il devait faire toutes ces choses, il dit exactement ce qu'il devait faire. Donc nous devons nous focaliser sur ce que nous devons faire. Et Dieu va se focaliser sur ce qu'il doit faire. Et au verset 8, il est dit, Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voyez, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Moïse va les sortir d'Égypte, mais c'est Dieu qui fera la délivrance. Qu'est-ce que Moïse allait faire? Aller auprès de Pharaon? Alors, a-t-il déjà parlé au Pharaon auparavant? Bien sûr. En fait, il était considéré petit-fils de Pharaon quand il était élevé par la fille du Pharaon. Peut-être il se disait maintenant, il se disait peut-être comment il allait faire tout cela. Mais Dieu lui dit, tu vas aller chez Pharaon, et moi, je vais les en sortir. Et au verset 11, Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte d'Égypte les enfants d'Israël? Alors Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Il s'agit là d'un cas de fausse identité. Moïse qui était en train de parler à Dieu, et maintenant, il ne sait pas qui il est. C'est comme nous. Nous parlons à l'homme, nous parlons à Dieu, et je me demande qui je suis. Puis-je faire ces choses? Puis-je opérer les dons de manifestation du Saint-Esprit? Puis-je opérer toutes ces manifestations? Puis-je guérir? Puis-je ressusciter les morts? Puis-je chasser les démons? Puis-je conduire les gens à la nouvelle essence? Oui, vous pouvez, je m'en fous de ce que vous étiez dans le passé. Ne laissez pas le passé déterminer votre avenir. Moïse était berger, mais Dieu lui dit qu'il avait un autre boulot pour lui. Vous voulez argumenter avec Dieu? Qui êtes-vous? Vous êtes au moins quelqu'un à qui Dieu peut parler et vous pouvez lui parler. Allons au chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne croiront point. Ici, il s'agit des fils d'Israël. Et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel te point apparu. Ici, Moïse fait encore une face à une crise d'identité. Il lui manque de confiance. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Si nous allons au verset 20, au verset 10, il est dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. C'est pas possible. C'est pas possible. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va, donc je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voyez ici, Dieu lui dit, voilà les signes que vous pouvez faire devant les gens et ils vont vous croire. Et les fils d'Israël sont des croyants. Mais il craint qu'il croit qu'il a parlé avec Dieu. C'est comme notre cas. Vous parlez en langue, et c'est un signe pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été instruits. Mais on fait souvent face à cette crise d'identité. Qui suis-je? Je vais vous enseigner sur ce pourquoi Dieu nous a élus. Ce qu'il nous a appelé à faire. De toute façon, au verset 10, vous pensez que Dieu est stupide. Dieu vous a choisi. Moïse était un homme qualifié. Il était le meilleur des Égyptiens, mieux formé. Qui a fait ta bouche? Qui a fait la bouche de l'homme? Moïse, tu as une langue, des dents, tu peux formuler des mots. Je vous dirai quoi dire. Vous pourriez le dire lentement. Peut-être comprendre-t-il mieux. Au verset 11. Oui, l'Éternel lui dit qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu est en train de lui dire ce qu'il doit faire. C'est de croire pour bouger. Sa langue, sa bouche, ses lèvres, sa gorge. Il devait formuler les mots et parler. Et Dieu prendre soin de ce qu'il dirait. Mais Moïse est en train de se dire, « Mon Dieu, comment je vais faire tout cela ?» Simple. Comment avez-vous cru pour parler à votre mère? Comment avez-vous cru pour parler à votre père, à vos frères? Vous avez bougé vos lèvres, votre langue, votre bouche, et vous avez parlé. Dieu va vous dire maintenant quoi dire. Verset 13. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » En quelque sorte, il est en train de dire, « Dieu, tu sais quoi? Je ne sais pas si je peux croire pour faire tout ça. » Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, « N'a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se rejouera dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. N'est-ce pas simple? Vous n'avez pas à vous tracasser. Comment vous allez conduire le peuple d'Israël? Tout ce que vous devez faire, c'est de dire à votre frère ce que je vous dis et votre frère va le dire à Pharaon. Et je vais sortir mon peuple. Et vous serez en première position, au verset 16. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes et toutes les autres choses qu'il demandera de faire. Vous voyez comment Dieu est en train de conduire Moïse au lieu où il peut croire pour faire des choses que Dieu veut qu'il fasse. Il aurait pu l'abandonner et dire, va te faire foutre, je vais parler à ton frère. Mais Dieu est si aimant, si bon, si doux. Là où nous n'avons pas de croyance, Dieu va nous guider au lieu où nous pouvons croire. Et il y a un récit formidable de la famille de Jairus quand Jésus alla ressusciter sa fille. Il amena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Trois témoignages de trois hommes qui devaient croire que Jésus est ressuscité. Vous voyez comment Dieu avait déjà commencé à préparer nos cœurs à croire que quelqu'un pouvait être ressuscité. Donnez pas de crise d'identité. Dieu vous a appelé. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes les seuls que Dieu ait choisi. Chapitre 5. Alors, Moïse, au verset 1, nous sommes toujours dans Exode, cette fois-ci au chapitre 5 d'Exode. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Vous voyez? Ici, vous savez, Moïse est en train de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur d'identité. Après ceci, Moïse n'a plus de problème de parler à qui que ce soit. Car l'un des traquenards de l'adversaire, c'est de vous faire questionner sur votre identité ou de vous faire prouver qui vous êtes. Regardez au récit de la tentation de Jésus, à Matthieu 4. Alors dans Matthieu, Matthieu chapitre 4, tentation de Jésus. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus n'avait pas de crise d'identité. Il savait qu'il était fils de Dieu. Il n'y avait aucun doute dans son intelligence. Et il a répondu, pour l'homme en tant que rédempteur de l'homme. Matthieu 4. Alors Jésus, je suis en train de lire à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Il donnera des ordres à ses anges, et à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur, ton Dieu. Vous voyez, ici, le diable est en train de défier Jésus-Christ sur son identité. Mais au verset 7, vous voyez, Jésus-Christ était certain de ce qu'il était. Il était certain de ce qu'était son Père. Vous voyez qu'il n'y avait aucune crise d'identité pour notre Seigneur. Il n'avait aucun problème de ce qu'il était et de son identité. Alors, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de votre cœur? Eh bien, en 1 Jean, allons à 1 Jean. 1 Jean, épître. 1 Pierre, 1 Jean, chapitre 3, au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas ce qu'il ne l'a pas connu, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous voyez, il est dit, le monde, si le monde ne nous connaît pas, voilà pourquoi il nous demande toujours notre identité, hein, car nous sommes différents d'eux. Le monde ne nous connaît pas. Et il est dit trois fois ici que nous sommes quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Il ne veut pas y avoir d'erreur d'identité. Il n'y a pas de quelle identité. Nous avons cru pour devenir enfants de Dieu. Nous le sommes, agissons. Rêvons-nous du nouvel homme. Allons à Romains 8. Romains 8. À Romains 8, je veux vous montrer pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Alors, qui nous a rendus plus que vainqueurs? Qu'avons-nous à nous revêtir pour que nous soyons plus que vainqueurs dans toutes les situations? Et en Romains 8, commençons au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez, nous sommes frères de Jésus-Christ et enfants de Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Alors, si vous regardez les situations dans la vie, vous ne pouvez pas échouer. Si vous vous conduisez comme enfant de Dieu, revêtez seulement le nouvel homme, cette nouvelle nature avec la nature de Dieu qui est lumière et amour. Si nous marchons dans la lumière et dans l'amour, la loi de la croyance est certes importante, mais la loi par laquelle nous vivons au quotidien, c'est la loi de l'amour en Christ Jésus. C'est là que nous voulons nous focaliser, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la voix de Dieu. Il est intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes hyper nikao, super vainqueurs par celui qui nous a aimés. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas beau? Voilà pourquoi vous ne pouvez pas échouer. Aujourd'hui, c'est notre jour de victoire. Le jour où nous devons commencer à vivre victorieusement. Il n'y a aucune crise d'identité. Vous êtes super vainqueur dans les affaires. Il n'y a pas de crise d'identité. Si vous vous revêtez de cet amour, vous marchez dans l'amour. Si nous marchons dans cette lumière, nous triompherons dans le mariage. Si nous marchons dans l'amour et dans la lumière, nous vaincrons dans les affaires. Si nous marchons dans l'amour et dans la lumière, nous nous revêtrons de cet esprit qui donne la vie à ce corps mortel. Vous aurez la santé, vous êtes victorieux en ce qui concerne la santé, selon 1 Pierre 2, 22 à 24. Vous êtes victorieux en ce qui concerne, vous avez l'amour, je dis, vous avez l'amour. Vous êtes plus que vainqueur d'être un croyant, Romains 10, en Romains 8, verset 11, vous voyez que vous vivez l'amour. Et si vous vivez l'amour, vous êtes plus que vainqueur d'être un croyant. Car la croyance est énergisée par l'amour, selon Galates 5, 6. Vous voyez qu'il n'y a pas de crise d'identité quand nous savons qui nous sommes. Maintenant, en ce moment, nous ne nous focalisons pas au passé. Ne laissons pas le passé déterminer notre avenir. En ce moment, maintenant, nous sommes enfants de Dieu, enfants du Dieu vivant. Voilà notre résolution. Et nous sommes absolument déterminés. Et nous en explorerons davantage sur ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu dans les prochains enseignements. C'est merveilleux de commencer le nouvel an avec vous. Nous vous aimons. Nous sommes très reconnaissants pour votre vie. Et merci beaucoup de partager avec nous de votre abondance et prospérité. Nous sommes toujours dans la démarche d'acheter une église qui nous permettra de nous rassembler où nous pourrons nous focaliser sur des besoins spécifiques. Je ne cherche pas vraiment un lieu pour nous rassembler, mais plutôt un lieu où nous pouvons agir. Et c'est à quoi je m'attends. Continuez à partager, à croire avec nous. Merci. Père, merci. En ce début d'année, merci de ce que vos compassions se renouvellent chaque matin. Merci Père que ce que nous pouvons marcher avec la confiance dans votre capacité à faire qui est plus que notre capacité à croire, afin que nous puissions recevoir tout ce que vous avez pour nous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.